Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio. L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Yves Daou, directeur des pages économiques du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Cette semaine, la politique a passablement nourri les sujets économiques de l'heure. Les PDG des sociétés d'État, de la Caisse de dépôt et de la Société des alcools étaient devant les députés de l'Assemblée nationale pour justifier leur plan stratégique. D'abord, la Caisse de dépôt, avec son PDG Charles Aymon, ont dû justifier, évidemment, leur investissement dans les paradis fiscaux, ces entreprises qui tentent d'éviter de payer trop d'impôts. Et donc, est-ce que la Caisse doit donner l'exemple et se retirer de ces paradis qui permettent les entreprises de ne pas payer leur taux d'impôts? On va parler d'immobilier. Évidemment, le premier ministre Legault s'est fait poser des questions par la chef de Québec solidaire. Peut-on vraiment trouver un logement à 500 $ à Montréal raisonnable? Et évidemment, c'est de plus en plus difficile pour les familles de pouvoir devenir propriétaire d'une maison. On va parler de Poutine, l'héritage patrimonial du mets québécois qui devient plus important que le sirop d'érable. Plusieurs Québécois ignorent que la poutine est répandue à travers la planète. Sommes-nous vraiment la nation poutine? Et en terminant, la SAQ célèbre ses 100 ans. Nous sommes à la fois actionnaires et clients de ce monopole de l'alcool. Mais quel est l'avenir de ce monopole? On en discute avec nos experts. Bon balado!
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Cette semaine, le grand patron de la Caisse de dépôt, Charles Aymon, était à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits du ministère des Finances. Évidemment, c'est l'occasion pour les députés de l'Assemblée nationale de poser des questions au grand patron de notre bas de laine. Et le sujet qui est revenu, est-ce que la Caisse de dépôt doit être encore dans les paradis fiscaux? Évidemment, la Caisse raffole de ce qu'on appelle des petits impôts, là. Plus de 45 % des entreprises comprises dans le portefeuille de la Caisse de dépôt paient un taux anormal d'impôts très, très bas, souvent en bas de 15 % et même... Plusieurs des entreprises sont sous surveillance par la Caisse parce qu'il y en a qui paient moins de 5 %. Pour en discuter, je reçois notre chroniqueur Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
Bonjour Yves.
Évidemment, Charles Aymon, c'est tout le temps un sujet là, qui revient à tous les années. Est-ce que la Caisse doit être dans des paradis fiscaux? Et là, il a été clair que la Caisse était prête à se sortir des entreprises là, qui investissaient qui dépensaient très peu en impôts. Pourtant, tu sais, on a investi dans Gildan presque un demi-milliard, puis leur taux d'imposition est moins de 5 % sur plusieurs années. On investit dans les GAFA, là, qui payent souvent des taux d'imposition à travers le monde très faibles. Pas facile de gérer la question des paradis fiscaux pour la Caisse de dépôt, non?
Bon, écoute, la Caisse, moi, ce qui m'a frappé cette année, pour la première fois, évidemment, Charles Aymon, c'est sa première année en 2020, là, sa première année à la tête de la Caisse de dépôt. Antérieurement, tous les PDG de la Caisse de dépôt et de placement, quand ils allaient comparaître, quand ils comparaissaient devant la Commission des finances publiques, là, arrivaient et puis déposaient des documents. Et c'est à ce moment-là qu'on découvrait quels étaient Les entreprises dans lesquelles la Caisse investissait, on parle entre autres d'entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Et puis, on en avait une longue liste. D'ailleurs, écoute, en 2019, il y en avait 342, je les ai comptées. Mmh. 342 entreprises. Yves, il faut quand même souligner. Mais cette année, avec Charles et moi, on a décidé de changer la méthode sous prétexte qu'on veut être plus clair. pour être plus limpide, transparent, on a tout simplement radié la liste exhaustive des entreprises qui sont enregistrées dans les paradis fiscaux. Il n'y a plus de liste. Alors, tout ce qu'on se contente de faire et ce qu'on a déposé à la Commission des finances publiques, c'est ce que la Caisse appelle juste valeur des placements dans les pays à fiscalité réduite. On s'entend, ce sont les paradis fiscaux. Mm-hmm. Et puis, on ne retrouve que la somme totale, 24 milliards. Donc, et ça nous permet de savoir que dans les îles Caïmans, quand même, il y a 13 milliards de dollars de placements, dont les entreprises qui sont enregistrées dans les îles Caïmans, entre autres. Or, mais tu sais, on donne donc une somme globale. Le prétexte, puis là, on nous fait croire qu'on est encore plus clair que les années antérieures, parce que les années antérieures, quand tu donnes la liste, il y a des entreprises, tout ce qui est privé, tu n'as qu'une fourchette de valeur. Mmh. Alors, et là, on nous fait croire qu'avec le petit tableau, maintenant, c'est plus clair. Ben voyons donc. Puis, deuxième question, pensez, Yves, leur somme totale de 24 milliards, qu'est-ce qui empêchait la Caisse de nous fournir la liste des entreprises? Rien. Je vais te dire pourquoi, moi, qu'ils font ça. C'est parce qu'ils veulent éviter que des journalistes curieux comme ceux de notre bureau d'enquête, se mettent à regarder de près telle ou telle entreprise enregistrée dans les paradis fiscaux et puis se mettent à fouiller les dossiers pour savoir c'est qui ces entreprises-là, qui sont derrière. Alors, fait que là, évidemment, quand tu regardes le rapport annuel de la Caisse de dépôt, tu retrouves toute la liste des milliers d'entreprises, ça dépasse les 1000 sûrement, dans lesquelles la Caisse investit, mais t'es pas, tu comprends-tu, tu as le nom, tu sais pas où est implantée cette entreprise-là, où elle est enregistrée. Alors, je trouve, moi, la Caisse qui se vante toujours de grande transparence, alors je trouve que c'est un accroc, justement, à la transparence, de ne plus publier cette liste exhaustive des entreprises enregistrées dans les paradis fiscaux. Puis en plus, on a retiré de la liste, imagine-toi, on a retiré du calcul des placements de la Caisse dans les paradis fiscaux les entreprises qui supposément payent de l'impôt ailleurs dans les pays où elles sont également, où elles ont des activités. Donc, tu n'as même pas le portrait complet en plus.
Mais ce qui est fascinant de la discussion que les députés de l'Assemblée nationale ont eue avec justement Charles Lémond, où ce que, dans le fond, il disait, il va mettre sous surveillance les entreprises dont le taux effectif d'imposition là, est en bas de 15 %, là. Mais il y en a demain pas moins qu'on réinvestit dans, par exemple, des compagnies du CAFA, là, dont les Amazon, les Google, etc., pour lesquelles la Caisse veut profiter du rendement boursier de tout ça. Et ça, c'est toutes des entreprises qui payent à peine 1,2% d'impôts effectifs. Donc, on est un peu bicéphale là-dedans. C'est qu'à la même temps, on veut du rendement sur des titres qui vont rapporter beaucoup en bourse, mais en même temps, c'est toutes des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Donc, un enjeu bien difficile à gérer pour la Caisse de dépôt.
Oui, non, mais c'est un fait. Mais cela dit, la question, c'est que nos gouvernements, les gouvernements à travers le monde luttent, mènent des luttes contre les paradis fiscaux, contre les entreprises qui utilisent les paradis fiscaux à toutes sortes de fins fiscales, évidemment. Mm-hmm. Écoute, sinon, si c'est pas à des fins fiscales, pourquoi tu vas t'enregistrer aux îles Caïmans, là? Pensez deux minutes, là. Faut pas nous prendre des caves, là. Mm-hmm. Bon, on n'est pas des tatas, là. Alors donc, ils font la lutte aux paradis fiscaux, puis là, tes principales caisses de retraite, dont la Caisse de dépôt et de placement du gouvernement du Québec, détient minimum 24 milliards dans les paradis fiscaux. Alors là, je trouve que ça lance un très mauvais signal. Ils font la morale aux grandes entreprises qui sont installées dans les paradis fiscaux, mais tu laisses ta Caisse de dépôt, évidemment, bénéficier des paradis fiscaux. Alors regarde, il y a comme une incongruité, une incohérence.
On est avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je veux te parler de ta chronique qui parle justement que, bon, on le sait, là, la Caisse de dépôt a beaucoup de déposants, là, beaucoup de caisses de retraite. Là. Évidemment, bon, dans un actif de 365 milliards, tu sais, il y a 6 millions de Québécois et de Québécoises qui cotisent et qui sont bénéficiaires, évidemment, des rendements qui viennent de la Caisse, mais ils ont plus de 40 grands régimes de retraite et d'assurance qui évidemment, déposent leur argent à la Caisse pour donner des rendements. Et tu nous parles actuellement qu'il y a quelques-uns de ces déposants-là qui ont décidé de peut-être réduire leur cotisation à la Caisse. Explique-nous ça.
Ben oui, alors ce qui arrive, c'est que notamment, il y a deux gros fonds là, assez importants. Premièrement, le régime de retraite des employés de la Ville de Laval, là, c'est quand même un gros fonds. Et ensuite de ça, tu as le fonds commun là, de placement des régimes de retraite de l'Université Laval. Alors, ces deux-là, ils ont décidé de réduire l'actif qu'ils confient aux gestionnaires de la Caisse de dépôt de placement. Pour obtenir du rendement sur l'or. Alors évidemment, ça, regarde, il ne peut y avoir, s'ils le font, tu sais, quand une caisse de retraite réduit l'actif qu'elle confie à un gestionnaire de portefeuille, c'est pas compliqué, c'est parce qu'elle est mécontente du rendement, sinon elle le ferait pas. Là. Si tu es content du rendement qu'on te procure, tu restes avec le même gestionnaire de portefeuille. Il faut savoir que depuis les deux dernières années, la Caisse de dépôt a rapporté un rendement inférieur à son indice de référence. C'est le cas notamment en 2019 où elle a rapporté un rendement de 10,4%, mais c'était 1,6 point de pourcentage de moins que son indice de référence à la Caisse elle-même. Là. Puis en 2020, c'est encore pire. C'est un rendement de 7,6%, mais c'est 1,5 point de pourcentage de moins que son indice de comparaison. Alors évidemment, puis ça, tu sais, quand tu regardes tous les gestionnaires de portefeuille, mettons que la Caisse se situait pas dans le peloton de tête, loin de là. Mmh. Alors, donc, tu vois, et les deux régimes de retraite en question, donc de la Ville de Laval et celui de l'Université de Laval, ils ont décidé de réduire, mais sensiblement, là, écoute, c'est vraiment une baisse importante là, de l'actif confié à la Caisse. J'imagine que c'est parce qu'elles sont déçues. C'est sûr que quand tu communiques avec ces fonds-là, tu leur demandes la vraie raison, ils patinent, puis ils disent... tout ce qu'ils font, c'est qu'ils patinent, ils nous donnent pas les vrais motifs, mais voyons donc. Si t'es content du rendement, tu changes pas tes positions, tu changes pas l'actif, tu confies à un gestionnaire, il va s'en dire. Il faut préciser... Bon, là, c'est deux. Il faut dire que ça, c'est deux régimes indépendants. Parce que à la Caisse de dépôt, évidemment, tu as les régimes qui doivent absolument rester avec la Caisse puis qui cherchent aucun autre gestionnaire. Quand je pense à Retraite Québec, quand je pense au régime de pension des employés du gouvernement du Québec, le fonds d'amortissement justement des régimes de retraite, le ministère des Finances, tu comprends-tu? Mm-hmm. Eux autres, tout l'argent, ils n'ont qu'un seul gestionnaire, puis peu importe le rendement du gestionnaire, ils vont le laisser, puis dans ce cas-là, c'est la Caisse de dépôt. Mais tu as des régimes indépendants, comme ceux de la Ville de Laval et régime de retraite Ville de Laval et celui notamment de l'Université Laval, et qui, eux, sont indépendants. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent l'argent, l'actif total de leur régime de retraite, puis ils choisissent des gestionnaires. Alors, dans ce cas-ci, ils ont décidé de réduire leur position face aux gestionnaires de la Caisse de dépôt.
Michel, ça va être surveillé. Moi, je pense que ces régimes indépendants-là, que ce soit, par exemple, la Ville de Montréal, les universités, tout ça, il y a de même pas moins que c'est l'argent public là, qui paye les salaires. Oui. Puis il va falloir s'assurer que, bon, s'ils se retirent tranquillement de la Caisse, qu'ils vont pas remettre cet argent-là dans des fonds qui sont gérés, par exemple, des banques à Toronto. Ouais. Et donc...
Il faut préciser, Yves, que la Ville de Montréal n'est pas avec la Caisse de dépôt.
Ah, ça, c'est intéressant. Mais, bon, on ne sait pas avec qui ils sont.
Ben là, je ne le sais pas, mais en fait, ça serait... On va mettre un homme ou une femme là-dessus.
On va surveiller ça. Hey, Michel, merci beaucoup. Écoute, moi, je suis en train de faire mon rapport d'impôt. Et évidemment, mon taux est assez élevé, là, de où ce que dans le fond, c'est 50 %. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais installer un palmier dans ma cour. Pensais que je suis dans un paradis fiscal, puis peut-être que j'aurai un grand remboursement lors de ma déclaration d'impôt. Salut Michel, merci. C'était Salut. Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec.
le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la Pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Yves Daou et Michel Girard démystifient, informent et analysent le monde des finances. Pour que vous puissiez, enfin, vous mêler de vos affaires. Cube Radio.
Cette semaine, le premier ministre Legault a évidemment s'est retrouvé dans la controverse quand la chef de Québec solidaire lui a demandé c'était quoi le prix d'un logement à Montréal et qui a dit ça commence à 500 $ ou 600 $, ça peut aller jusqu'à 1000 $. Mais ça a quand même créé un enjeu. Est-ce qu'il y a vraiment une crise du logement à Montréal? On pourra en discuter. Je reçois Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Ghislain.
Bonjour, Yves.
Évidemment, tout le monde s'est posé la question après cette déclaration-là du premier ministre Legault. Est-il vraiment possible de se trouver un logement à 500 $ à Montréal? Donc, il est revenu en disant que c'était peut-être pour les étudiants, mais la réalité, c'est une famille aujourd'hui. Peut vraiment pas se trouver un logement à ce prix-là à Montréal. Et pourquoi c'est si difficile de se trouver un logement à Montréal? C'est quoi la situation actuellement, selon ton avis?
Bien, qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que le taux d'inoccupation est très bon et il a augmenté un petit peu à cause qu'on a moins de visiteurs extérieurs, on a moins d'étudiants aussi extérieurs qui sont à Montréal, mais des logements à 500-600 qui sont affichés, c'est très, très rare qu'on voit ça, Yves. Qu'est-ce qu'on voit présentement, c'est que j'ai eu des logements à Montréal. On va en voir des logements à 500, mais c'est des logements qui n'ont pas été augmentés depuis 20, 30 ans. C'est la même personne qui est là. Et là, on en voit. Mais allez sur Kijiji, les packs ou le Marketplace, puis essayez de trouver un logement à ce prix-là. Bonne chance. Qu'est-ce que tu vas être capable de trouver? C'est peut-être une chambre que tu vas, comme M. Legault parlait, dans un appartement, qu'il y a quelqu'un qui loue sa chambre, mais ça va être très, très, très difficile. Et ça ira pas en s'améliorant, qu'est-ce que je prédis. Parce que quand le vaccin va être finalisé, tout le monde va être vacciné, les écoles vont réouvrir et il y a eu beaucoup de logements qui étaient Airbnb, qui étaient loués à court terme et qui ont été convertis en des logements à long terme. Et là, quand le tourisme va revenir au Québec, mais probablement que ces logements-là, les gens vont vouloir y aller, les gens vont vouloir remettre en Airbnb, ben c'est beaucoup plus payant pour le propriétaire que d'avoir un logement à long terme.
Tu disais récemment qu'actuellement, ceux qui ont des loyers relativement bas, souvent les locataires qui sont là depuis des années, donc c'est encore eux qui profitent de ça tant aussi longtemps qu'ils vont être là.
Bien, c'est eux autres qui en profitent parce qu'on a une certaine limite qu'on peut augmenter les loyers. Mmh. Et souvent, les propriétaires, ils n'ont pas de raison qu'ils veulent. Ah, j'ai un bon locataire, il paye à tous les mois. Fait que j'aime mieux avoir la paix que d'avoir quelques dollars de plus par mois. Et c'est ça qu'on voit souvent dans les personnes un peu plus âgées qui ont des immeubles à revenus. C'est pas une business pour eux autres. Puis aime mieux avoir la paix puis garder des logements un peu plus bas. Puis être capable de garder tout le temps le même locataire à l'intérieur.
Nous sommes avec Ghislain Larochelle, qui est chroniqueur immobilier au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ghislain, évidemment, bon, si tu veux plus être locataire, évidemment, ton autre solution, c'est d'être propriétaire. Or, on le sait, là, être propriétaire aujourd'hui, autant à Montréal que dans la première couronne de la rive sud ou de la rive nord, c'est devenu vraiment dispendieux. Mais il y a quand même des familles, tu sais, quand tu as deux salaires, tu es peut-être capable de passer à acheter une propriété. Or, c'est quoi les stratégies pour réduire les coûts d'un achat de propriété?
Je vais t'en dire quelques-unes, Yves. La première, Si tu t'en vas, par exemple, dans la région de Montréal, tu regardes à Boucherville. Le prix moyen d'une maison à Boucherville en mars cette année était de 465 000. Tu fais juste te déplacer 20 minutes sur l'autoroute, tu t'en vas à Sainte-Sassin, le prix moyen est rendu 350 000. Donc, tu as 115 000 de moins pour faire 20 minutes d'autoroute de plus. Fait que ça, c'est la première stratégie, aller peut-être à la deuxième couronne ou de rester dans la couronne proche de Montréal. La deuxième stratégie, c'est d'aller voir les maisons qui ont besoin de rénovation. Parce que les gens, souvent, qui se partent, ils s'en vont en appartement. « Oh, moi, je veux pas de casse-tête. Je veux avoir une maison toute rénovée, toute prête. » C'est sûr qu'il y a une plus-value. Il y a une prime à payer pour ce type de maison-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail. Et comme on sait, le prix des matériaux est très cher de ce temps-ci. Donc, il y a une surprime à payer. Fait que si tu achètes une maison qui a besoin de rénovation, puis tu acceptes pour quelques années de demeurer dedans et de faire ça tranquillement, tes rénaux, là, tu vas pouvoir sauver beaucoup. Oubliez pas qu'il y avait l'année dernière, il y avait 93 000 maisons à vendre sur centris.ca et présentement, il y en a 46 900 hier qu'il y avait. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a encore 46 000 maisons qui sont à vendre, immeubles qui sont à vendre au Québec. Fait que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se, excuse le terme québécois, mais ils se garochent directement sur les maisons qui viennent de sortir. Et il y en a quand même 46 000 qui sont là et qui attendent d'avoir une offre d'achat pour être capable d'être acheté. Fait qu'on n'est pas à zéro au Québec, là. Il y en a encore 46 000 qui sont là.
Ghislain, en terminant, évidemment, l'enjeu de notre propriété, c'est toujours le financement, là. Est-ce que tu as quelques conseils au niveau de la négociation de l'hypothèque avec une banque?
Ben oui, c'est de pas prendre la première offre qui vous est offerte. Souvent, il y a aller magasiner, aller voir deux, trois banques ou prenez un courtier hypothécaire. Il y a des taux à rabais parce que tu as le taux affiché, tu as des taux à rabais et vérifiez l'amortissement aussi. Est-ce que vous pouvez prendre du 25, du 30 ans pour être capable de diminuer vos paiements mensuels? Et les taux sont excellents de ce temps-ci, c'est que profitez-en, allez geler votre taux pour un 3, 5 ans pour avoir ça le plus longtemps possible. Parce que les taux peuvent presque plus baisser. On est pas mal rendu bas, là. Fait que la seule chose qu'ils vont faire probablement dans les prochaines années, mais j'ai pas de boule de cristal, ça, il y a des chances à leur mort.
Ghislain, on le sait, la maison, c'est un des actifs les plus importants des Québécois. Et évidemment, on va continuer à te lire dans le journal Moi, Journal de Québec. Donc, c'était Ghislain Larochelle, chroniqueur immobilier. Au plaisir de suivre tes analyses dans le journal.
Pour que l'argent fasse le bonheur, mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daoui et Michel Girard.
On parle beaucoup de poutine de ce temps-ci. Même hier, je voyais une publicité de McDonald's qui met en évidence la poutine dans ses mets. Or, l'héritage patrimonial de la poutine est assez important. On parle même que ça peut être aussi important que le sirop d'érable. Et plusieurs Québécois ignorent que la poutine s'est répandue sur toute la planète. Or, sommes-nous vraiment la nation poutine? Alors, pour en discuter, je reçois Sylvain Charlebois, qui est directeur analytique agroalimentaire à l'Université de Dalhousie. Salut, Sylvain.
Bonjour.
Sylvain, on apprend que tu viens de lancer un nouveau livre qui s'appelle « Poutine Nation » et qui est, dans le fond, qui est le temps de suggérer, d'officialiser le statut de la poutine comme étant l'héritage patrimonial du Québec. Explique-nous ça.
Ben, en fait, la France l'a fait avec sa baguette. Alors, pourquoi pas le Québec pour la poutine? Et à chaque fois, moi, je voyageais beaucoup avant la COVID. Là, je vais recommencer bientôt, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on parle du Québec, c'est sûr que quand je donne des conférences, les gens remarque mon accent, alors il remarque que je suis québécois et on parle de poutine, effectivement. Donc la poutine est vraiment intrinsèquement liée avec la culture québécoise et on devrait la célébrer. Dans le fond, le livre, C'est pour rendre hommage au Québec, rendre hommage à ma région natale, qui est les cantons de l'Est, les Bois-Francs, et puis à la poutine. Je pense qu'on l'a pas fait avant maintenant, et on était rendu là, finalement.
Elle est issue de où, la poutine? Tu sais, il y a toujours eu un débat. Est-ce que c'est à Québec? C'est-tu à Warwick? Où est le vrai village de la poutine?
Oui, ben, en fait, c'est vraiment le premier livre qui s'attaque au débat, là. Vraiment, là, de front, là, j'ai fait mes devoirs, j'étais allé à Warwick, j'étais allé à Victoriaville, Princeville, Drummondville, j'ai interviewé du monde partout. Puis la réponse à ta question, Yves, c'est qu'il y a un mélange entre Warwick puis Drummondville, finalement. En 57, c'est Fernand Lachance qui a été le premier à appeler ce plat-là poutine. C'était sur son menu en 57. Mais lui, il mélangeait le fromage et la frite, pas la sauce. C'était pas un grand fan de la sauce. C'est sa femme, en 62, qui a créé une sauce. C'était vendu à côté. Bon. Mais en 64, à Drummondville, Jean-Paul Leroy, le propriétaire du Roi Giuseppe, qui était saucier de formation, il a fait ses cours à Montréal. C'est vraiment lui qui a fait l'amalgame des trois éléments, le fromage, frites et sauce, là, en 64. Donc, l'inventeur de la poutine, c'est Jean-Paul Leroy à Drummondville, mais le père de la poutine et la mère, là, monsieur et madame Lachance, ben c'était à Warwick que ça s'est passé.
Est-ce qu'on comprend que des mets qui deviennent des héritages patrimoniaux à travers le monde, est-ce que ça vient souvent de petits villages?
Pas nécessairement. C'est ce qui rend l'histoire de la poutine unique. Hein. Moi, je suis un gars de campagne. Et puis, de voir un plat comme ça être créé en région et s'imposer dans les grandes villes plusieurs années plus tard, c'est quand même extraordinaire. Moi, dans le livre, je fais un parallèle entre la poutine et la pizza. La pizza de Napoli, là, son histoire ressemble beaucoup à la poutine. Trois éléments importants, sauce tomate, pâte et puis fromage. Et puis ça a été créé, ça a été boudé par l'élite pendant longtemps, mais avec les années, la pizza a conquéri le monde. C'est incroyable. Et puis, ben, dans le fond, c'est un peu ça, la poutine. Et on devrait, à mon avis, archiver cet héritage-là, cette contribution-là. Ce qui a été difficile avec le livre, c'est de reconstruire le contexte. Pourquoi on a créé la poutine? Pourquoi on a fait ça en 57? C'était pas évident, parce qu'en région, évidemment, les gens archivaient pas tant que ça, là.
Non.
Hein. C'était pas facile, non. Il y avait pas beaucoup, beaucoup de notes, là.
Mais moi, j'essaie de comprendre. Aujourd'hui, évidemment, la poutine originale, là, qui est la frite, la sauce brune et évidemment le fromage, là, en grains. Ouais. Mais aujourd'hui, écoute, j'étais récemment à Frites à l'Art, là, qui est une boutique à Montréal. Là, et je pense que j'ai vu au moins 30 variantes de poutine. Ouais. Écoute, il y en a avec du smoked meat, il y en a avec... est-ce que ça nuit à l'original ou ça a un impact plutôt positif pour la poutine elle-même?
Ben, c'est la rançon du succès. Dans le livre, là, j'ai fait un pèlerinage mondial de la poutine. Là, j'en ai mangé partout dans le monde. Simplement pour démontrer que la poutine, c'est facile à trouver là, à cette heure. Là. Je parle des États-Unis, au Canada, bien sûr, aux États-Unis, en France, en Australie même. À Cleveland, là, je sais pas si on me croit, Yves, mais j'ai mangé de la poutine avec une sauce à base de vin. Et pour le fromage, on m'a servi une poutine avec du mozzarella en poudre. Je niaise pas, là. Puis là, je me dis, est-ce que c'est de l'appropriation culinaire? Est-ce que c'est correct? Puis je me dis, ben, coudonc, peut-être. Tu sais, pour la pizza, là, on a toujours créé la pizza hawaïenne au Canada. Mm-hmm. Puis quand on retourne en Italie, puis on leur explique qu'on a mis... on met de l'ananas et du jambon sur de la pizza, les Italiens sont offusqués, mais on l'a fait pareil.
Je veux savoir, le mot poutine, est-ce qu'il a été breveté ou c'est devenu du domaine public?
Ben, c'est dans le dictionnaire depuis 2014, poutine, mais j'ai vraiment de la difficulté à comprendre l'origine. Parce que évidemment, M. Lachance est décédé. Là.
Mm-hmm. Alors,
je ne pouvais pas vraiment lui demander, mais je pense que j'ai entendu au moins 6 ou 7 anecdotes.
Conte-nous au moins une anecdote. Pourquoi ça s'appelle Poutine? Oui.
Ben en fait, c'est M. Lachance, quand Jean-Guy Lennes est arrivé dans son restaurant pour dire « Mets-moi le fromage avec les frites ensemble », M. Lachance a répondu « Ben ça va faire une vraie poutine ». Mais je pense qu'il voulait dire « pudding ». Donc, un mélange d'éléments aléatoires. Là. C'est ce qu'on m'a dit à Warwick. Puis en 64, au roi Jussep, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y avait un sous-chef, un sous-cuisinier, qui s'appelait Tiput. C'est lui qui mélangeait les ingrédients, puis ils l'ont appelé poutine. Ça, c'est les deux anecdotes qui reviennent le plus souvent.
Dans le cas de ton livre, là, évidemment, tu fais référence évidemment à la variante de poutine un peu partout. Les Américains, comment ils prononcent, eux autres, poutine?
Poutine.
Poutine, donc, hein?
Oui, poutine, c'est comme... puis c'est des parfois, je vais le voir inscrit P-O-U-T-E-E-N, comme teenager, teen, poutine.
Mm. Mais dans les autres pays à travers le monde, est-ce qu'ils ont donné, mettons les Italiens, est-ce qu'ils ont donné un nom italien ou ils l'ont gardé?
Non, c'est le même mot partout. J'ai jamais vu, à part de la façon de l'écrire, là, j'ai toujours entendu la même prononciation. Peut-être que le président de la Russie a aidé là avec son nom, là, mais parce que ça fait quand même 20 ans qu'il est président de la Russie, là, mais quand même, c'est un mot qui a pas changé là. Ouais.
Hey, écoute, comme je disais au début, hier, je voyais une publicité lors du match du Canadien de McDonald's qui met en évidence la poutine. Donc, une multinationale qui met de l'avant un produit qui est parti du Québec, c'est quand même un succès planétaire.
Oui, et puis le vrai parrain de la poutine, c'est Ashton Leblon, qui à Québec a institutionnalisé la poutine. La poutine était tellement populaire à Québec, c'est lui qui a forcé des franchises comme McDonald's d'adopter la poutine sur leur menu au début des années 80. C'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que la poutine vraiment s'est répandue assez rapidement au travers les grandes chaînes américaines comme McDonald's.
Écoute, Sylvain, tu nous as certainement donné le goût pour notre mets pour le midi. Donc, on va se diriger probablement dans un restaurant pas loin là, pour se goûter une bonne poutine. Donc, c'était Sylvain Charlebois, qui est directeur du laboratoire en agroalimentaire de l'Université d'Alosier et qui vient de sortir un excellent livre sur Poutine Nation. Et donc, je suggère aux gens de goûter à son livre. Donc, merci, Sylvain. Au plaisir.
Au revoir, Yves.
Au revoir.
Bye-bye.
Arrêtez de vous virer sur une scène.
J'ai eu mon trassou.
Yves Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires avec Yves Daou et Michel Girard. Cube Radio.
Chaque mois, Statistique Canada nous sort le taux d'inflation des produits, ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, et ça tourne autour des fois de 1 % à 2 %. Mais la réalité pour beaucoup de consommateurs, c'est que la vie coûte de plus en plus cher. Et faut-il s'en inquiéter? Alors, pour en discuter, je reçois Pierre-Olivier Zappa, qui est animateur et journaliste à l'émission À vos affaires sur LCN, qu'on peut écouter évidemment du lundi au vendredi à 18h30. Salut Pierre-Olivier.
Bonjour Yves.
L'inflation, là, tu sais, là, c'est comme une espèce de un peu inconnu pour les gens. On sort des statistiques, mais la réalité est beaucoup plus grande. Et toi, au cours de ton émission, beaucoup de gens te disent ça tient pas la route. Explique-nous ça.
Ben, écoute, de jour en jour, on constate que la vie coûte de plus en plus cher, et c'est particulièrement vrai par les temps qui courent. À l'émission, j'ai remarqué qu'au cours des dernières semaines, on a souvent parlé de hausse de prix, que ce soit l'essence, les métaux de base, les aliments, le poids d'œuvre. Cette semaine, je me suis rendu dans ce qu'on appelle communément une cour à scrap, rencontrer des ferrailleurs qui me disaient « Écoutez, on n'a jamais vu ça. Lorsqu'on amène des voyages dans notre camionnette, on peut en avoir jusqu'à 450 $ avec vos vieilles laveuses, vos vieilles sécheuses pour récupérer les métaux. » Il y a des ferrailleurs qui font jusqu'à 2 000 $ par semaine en récupérant les déchets. Bref, on a l'impression que le prix de pas mal de produits et de services a augmenté de façon considérable, que les prix ont monté en flèche depuis quelques temps. Et les hausses sont flagrantes. Tu vas à l'épicerie pour t'acheter 2 filets de porc qui avoisinent les 20 $. Et là, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois m'en inquiéter? Lorsqu'on regarde les statistiques officielles de Statistique Canada, l'inflation, donc la hausse du coût de la vie en quelque sorte, a bondi de 2,2% en mars. Donc, a priori, on est dans la cible, dans la fourchette qui était prévue et il n'y aurait peut-être pas de quoi s'inquiéter. Surtout que la Banque du Canada, la Banque centrale américaine prévoit que cette inflation, cette hausse du coût de la vie est normale et transitoire et passagère et que ça va se stabiliser. Mais ce qui peut être inquiétant, Yves, c'est si c'est le scénario inverse. Si les banques centrales ont tort et que cette inflation-là revient et est durable et que les prix repartent à la hausse. On voit le contexte en ce moment, on a rattrapé énormément de retard sur le marché de l'emploi. Le chômage fond à vue d'œil. Les gouvernements ont injecté des milliards et des milliards de dollars pour soutenir l'économie. Ils ont imprimé de l'argent comme jamais. Les consommateurs ont de l'épargne de côté qui sont prêts à déployer lorsque on assistera à la réouverture de l'économie. Et tout ça peut nous laisser croire que l'inflation est de retour et qu'elle pourrait rester et devenir un problème.
En fait, l'idée, là, c'est qu'on a presque une tempête parfaite. Là. Évidemment, tu as une situation de l'emploi là, bon, qui est toujours en yo-yo. Il n'en demeure pas moins que, bon, évidemment, il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre. On cherche beaucoup de travailleurs. Donc, puis les gens qui avaient des emplois, ils les ont encore, sauf que les salaires n'ont pas augmenté. Mais tous les prix augmentent. Puis là, regarde, l'immobilier est en pleine hausse. Donc, les gens qui veulent s'acheter une propriété, c'est presque devenu inabordable. Les prix augmentent de à peu près comme tu l'expliquais. Évidemment, les gens ont peut-être des taux d'épargne, mais ils vont s'acheter beaucoup de choses, puis là, ils vont commencer à s'endetter. Donc, il y a comme un alignement des planètes, là, que si ça continue comme ça, on va se retrouver avec une petite situation catastrophique peut-être dans les prochaines années. Là.
Ben, t'as raison de qualifier le contexte de tempête parfaite. Tu sais, on va citer les exemples en rafale. Vous achetez de la viande de porc, ça coûte énormément plus cher. Le prix a doublé parce qu'en ce moment, l'économie chinoise repart à vitesse grand V et les Chinois en importent des quantités astronomiques. Vous regardez le cuivre, qui est un métal de base. La demande chinoise est hyper forte en ce moment. Les Chinois consomment la moitié de la production mondiale de cuivre. Les voitures neuves coûtent pas mal plus cher. Mais là, il faut blâmer la pénurie de pièces et de conteneurs pour les transporter. Le bois de construction, on pointe du doigt la forte demande, le ralentissement de la production. Bref, on vit en ce moment les effets secondaires, et je dirais les premiers effets secondaires de la pandémie qui a créé des déséquilibres assez puissants entre l'offre de produits et de services et la demande. Parce que les gouvernements ont fermé des pans entiers de l'économie, ont imprimé des quantités d'argent phénoménales et ont donné en même temps de l'argent pour renflouer le portefeuille des gens pour qu'ils le dépensent. Donc, ce contexte-là est quand même inquiétant. Puis d'ailleurs, Yves, la Bank of America, cette semaine, et je trouvais ça intéressant, notait qu'on n'a jamais vu depuis 20 ans autant de compagnies parler de hausser leur prix. Je te donne un exemple, Dollarama, lors de la dernière conférence avec les analystes financiers il y a quelques jours, n'excluait pas hausser le prix maximum de ses articles à 5 $. Aujourd'hui, on est à 4 $, mais avec la hausse du coût de la vie, le contexte, Dollarama va finir par refiler la hausse de ses intrants, de ses coûts, aux consommateurs qui vont finir par payer plus cher pour leurs articles.
Évidemment, il ne faudra pas prendre les consommateurs pour des valises. Là. De plus en plus, là, même les consommateurs l'observent. Là. Par exemple, un sac d'avocats qui avait 12 avocats Là, tu te retrouves avec un prix qui a augmenté d'un dollar, mais au lieu d'avoir 12 avocats, tu en as 10. Tu as les paquets d'hot dogs, là, qui normalement, tu avais 12 saucisses là-dedans, augmenté de 10, 20 cents, mais tu te retrouves avec seulement 10 saucisses plutôt que 12. Il y a le concept qu'on appelle le shrinkinflation, là, c'est-à-dire les prix augmentent, mais les quantités de ton produit que tu achètes est de plus en plus réduite. Et donc, ça va être à surveiller. Puis les consommateurs là, sont pas fous. Là. À un moment, ils vont se révolter contre ça. Mais tu as un effet inverse aussi. Tu as l'inflation, puis tu as ce qu'on appelle le shrinkinflation, c'est-à-dire la réduction des quantités.
Et ça, moi, je le constate parce que depuis le début de la pandémie, je fais surtout mon épicerie en ligne. Et souvent, bon, il y a les petites photos, les petits items. Tu commandes ton épicerie, on te la livre. Je te donne un exemple. Dans mon panier de cette semaine, j'aime bien l'ananas. Alors, je commande un ananas qui est déjà pelé dans une petite barquette en plastique. L'ananas était $3,99, donc c'est le prix habituel que je paye pour l'ananas qui est pelé. Et on m'a livré, et là j'ai constaté avec surprise, que c'était un demi-ananas tranché qui était dans la même barquette de plastique pour le prix que je paye habituellement pour un ananas format original. Ce n'est qu'un exemple, mais dans l'alimentation, c'est vrai, les hausses de prix peuvent paraître sournoises. Je vais te donner un autre exemple. Tu connais bien le groupe MTY en restauration, qui est la maison mère de dizaines et de dizaines de restaurants comme Valentine. Ben, son PDG, Éric Lefebvre, disait récemment que cette hausse des prix, cette inflation, est très abrupte dans l'alimentation et que presque tous les menus des restaurants du groupe MTY, ça va de Bâton Rouge à Allô Mon Coco à Valentine, vont augmenter. Et tu regardes le trio, deux hot dogs, une frite, une liqueur chez Valentine, il a augmenté 10% sur un an. Certains diront 10% sur un trio à environ $10, c'est pas beaucoup, mais c'est l'accumulation de ces hausses-là qui va finir par frapper le portefeuille des consommateurs, surtout lorsqu'on va assister à la réouverture de l'économie, lorsque les gens vont pouvoir déployer leur épargne, s'acheter autre chose que des VTT, des motoneiges ou des ordinateurs. Puis c'est la même chose dans un paquet de secteurs. Tu regardes le prix du iPhone de base qui a augmenté de près de 20% en deux ans. Bref, on est dans un contexte inflationniste et la question qui se pose, parce qu'on regarde dans le rétroviseur, on voit les années 70. Il y a eu cette spirale inflationniste causée par les chocs pétroliers. On se demande, est-ce qu'on va se retrouver dans le même contexte de surchauffe? La plupart des experts, des analystes disent que non. Mais moi, ce que je dis, c'est méfions-nous de la COVID-19 parce que le virus a réussi à déjouer les meilleurs prévisionnistes au cours de la dernière année.
Hey, Pierre-Olivier, tu as mis en lumière une multitude de facteurs là, qui expliquent en ce moment là, certaines hausses des prix assez vertigineuses dans le secteur de l'alimentation et d'autres secteurs. Donc, on continue à t'écouter à ton émission, évidemment, À vos affaires sur LCN à 18h30 du lundi au vendredi. Donc, c'était Pierre-Olivier Zappa, animateur et journaliste sur LCN et TVA Nouvelles. Merci, Pierre-Olivier.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Cette année, c'est le 100e anniversaire de la Société des alcools, la SAC. Donc, en 1921, il y a une loi qui a été passée pour permettre la création de ce qu'on appelle la Commission des liqueurs. Et pour discuter des 100 ans de ce monopole de l'alcool au Québec, autant de son passé que de son avenir, j'ai le plaisir de recevoir Alain Brunet, qui a été PDG de la Société des alcools pendant quelques années et qui aujourd'hui est professeur associé au HEC. Bonjour, M. Brunet.
Bonjour, merci de l'invitation.
Écoute, je regarde votre pedigree, là, quand même important. Là, vous avez occupé 10 postes en 37 ans à la Société des alcools. Vous avez commencé en 1981 comme caissier-vendeur et vous êtes retrouvé entre 2013 et 2018 PDG. Vous avez aimé ça, travailler à la SAQ?
Ouais, ouais, ça a été une bonne école finalement, puis une carrière éventuellement. Là, ça a été juste une école parce que j'ai débuté dans le commerce de détail que je connaissais pas par un emploi étudiant, la SAQ en 81. Puis là, ben, j'ai eu la piqûre du commerce de détail. Même j'ai étudié en histoire, je me destinais pas en commerce. Puis éventuellement, ben là, j'ai bifurqué, puis j'en ai fait une carrière. J'ai étudié dans le domaine, puis j'ai eu aussi l'amour pour la gestion. Donc, j'ai eu la chance avec la SAQ de toucher à plein de postes, puis de développer un peu, me développer au fil de ma carrière.
Qu'est-ce que vous vous rappelez, vous, vraiment, si on avait quelques éléments des 100 dernières années de la SAQ, qu'est-ce qui vous frappe dans votre imaginaire pour cette société d'État-là?
Ben moi je pense que c'est une société d'État qui a su réagir aux époques qu'elle a traversées. Puis ce qui me ravit vraiment beaucoup, c'est moi je pense qu'on est passé comme entreprise on est devenu une vraie société commerciale dans les années 2000, la fin des années 90. On est devenu des passionnés de produits, des gens proches de la clientèle qui aiment conseiller, puis ça c'est à travers une équipe de 5000 employés partout à travers le réseau, qui sont des passionnés. Mais à l'origine, on se destinait pas à ça, parce qu'il fut une époque où c'était vraiment une entreprise un peu plus fonctionnaire, un peu détestée, je dirais, par la population, puis qui connaissait pas bien ses produits. Donc, on a fait d'une faiblesse une grande force, puis là, c'est vraiment sur ces horizons-là que l'entreprise se développe.
Juste vous rappeler, bon, évidemment, il y a encore, moi, mon père qui est 84, parle encore de la régie des liqueurs, puis la commission des liqueurs. Juste vous dire une parenthèse, moi, mon premier emploi que j'ai gardé pendant 5 ans, je travaillais à la Société des alcools. J'ai commencé à 18 ans dans une ce qu'on appelle à l'époque, on servait les clients, le comptoir.
Ouais, comptoir.
Et je connaissais à peu près rien de je connaissais le beefeater et le gin. Et tranquillement, j'ai commencé à servir les clients, mais les clients connaissaient pas beaucoup le vin. Ils ramenaient tout le temps les mêmes produits. Et quand on est passé, je pense, j'ai travaillé un an ou deux dans un comptoir. Mais après ça, on est passé au libre-service. Ça a éclaté. Les gens là, arrivaient avec des paniers parce que là, ils découvraient le vin. Est-ce que le passage au libre-service n'a pas été un moment fort des centaines de SAQ.
Ouais, ben, oui, absolument. Puis ça, vous illustrez bien l'évolution des Québécois, puis la SAQ qui a su se mettre à la page, puis même devancer, puis ravir les Québécois par la connaissance des produits, parce qu'il y avait un intérêt. Les Québécois sont épicuriens. Puis vous savez qu'en 71, c'est la fondation de la Société des alcools du Québec, comme on la connaît, puis c'est ça le libre-service. Donc, c'est avec l'engouement que vous décrivez que la SAQ a dû changer s'adapter, devenir un vrai commerce, là, axé sur le commerce. D'ailleurs, c'est pour ça la Société des alcools, ce qui est différent avec la régie des alcools, juste antérieurement, la SAQ, c'était que la régie émettait des permis, faisait du contrôle de règlement, ce qui a tout été laissé à la régie des permis maintenant. Puis la SAQ s'est vraiment concentrée sur le rôle commercial, le service à la clientèle, puis a développé sa connaissance. Mais ça, c'est vraiment parce que les Québécois sont épicuriens puis voulaient en savoir plus. D'ailleurs, pas juste en matière de vin spiritueux, mais aussi de bouffe. Hein? On sait comment le Québec a évolué.
On parle un peu du passé, mais là, je veux parler un peu avec vous de l'avenir, peut-être pour les prochains 100 ans de la SAQ. Ouais. On voit des choses qui se pointent à l'horizon. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier hein, que les Québécois sont à la fois actionnaires et sont aussi clients. Fait que quand on augmente les prix, les Québécois chialent. Puis quand la SAQ va se passer de dividendes au gouvernement, on n'est pas content. Donc, ce que je veux savoir, au niveau là, de l'avenir, on voit très bien là, que le commerce en ligne commence à prendre de l'ampleur. Sac.com, le volume a augmenté. Il y a aussi toute la question des produits québécois. On a vu l'expansion énorme des produits, l'achat local par les Québécois. Évidemment, la pandémie le permettait. Vous, là, vous voyez quoi comme les tendances qui vont faire en sorte que la SAQ va encore prendre plus d'expansion au Québec?
Ouais. Ben, vous touchez là deux points importants, d'ailleurs, pas juste pour la SAQ. Là. Moi, je suis de plus en plus impliqué dans le commerce de détail, dans l'évolution de ces commerces. Bien, à la SAQ, ça s'applique aussi, c'est le commerce en ligne. On est vraiment, puis l'achat local. C'est deux grandes tendances. Puis je pense que l'avenir de la SAQ et du commerce de détail en général au Québec est vraiment lié au développement puis à l'intérêt que les commerçants vont porter pour développer, même être précurseurs en termes de commerce sur le web, à travers les réseaux sociaux aussi, de personnalisation de plus en plus, ce qui permet d'être fait par le web, mais donc de rentrer en relation. Il faut de mieux en mieux connaître la clientèle, il faut la servir, parce que c'est ça l'attente du client, c'est d'être servi fonction de ses attentes, mais aussi il veut pas recevoir plein de choses inutiles. Donc, le web est important pour ça. On peut rentrer dans la maison des Québécois, des consommateurs, mais si on le fait mal, on est rejeté parce que maintenant, c'est le monde qui est au bout de nos doigts. Donc ça, la SAQ, hein, depuis les années 2000, vend en ligne sur le web. Elle a été précurseur, elle a accéléré au cours des dernières années. Si on regarde l'évolution du commerce puis de l'expérience client, la SAQ, ben moi je pense que c'est une belle démarche qui peut inspirer aussi beaucoup de détaillants, puis c'est l'avenir qui passe par là. Tout a été mis en place pour vraiment bien connecter dans les réseaux sociaux, avoir un site web vraiment intéressant en termes de service, service étant la connaissance des produits, une relation qui se développe à travers le web avec le client de façon personnalisée, éventuellement une facilité d'aller prendre la commande où on souhaite, soit la faire venir à la maison, aller l'accueillir au magasin. Donc, toutes ces plateformes-là qui ont été développées au cours des 10 dernières années, ben nous projettent dans la suite des choses, c'est-à-dire que pour les détaillants québécois, la compétition maintenant, c'est Amazon, ça vient partout dans le monde. Alors, si on ne fait pas face à ça, on n'est pas parmi les meilleurs en termes d'adopter les bonnes pratiques puis l'efficacité sur le web et on ne touche pas les clients, bien, on réussira pas.
Est-ce que ça veut dire que...
Les cartes qu'on a, c'est vraiment le produit local.
Donc, si on va plus vers l'achat en ligne, tout ça, est-ce que ça veut dire que normalement, on pourra avoir une réduction des succursales de la SAQ à travers le Québec?
À court terme, je pense pas. Moi, je pense que c'est vrai aussi pour les autres détaillants. C'est donc d'adopter, comme pour un épicier, adopter le commerce en ligne, c'est amener des éléments de plus pour rejoindre la clientèle, comme je l'écrivais, mais c'est aussi le moment d'attirer le client dans son point de vente. Puis le commerce de proximité est là pour rester. Puis là, j'abordais à peine le côté de l'achat local. Bien, l'achat local, c'est les produits locaux. C'est mettre en valeur des produits dans un circuit court. Donc, c'est de la proximité. Et ça, bien, c'est des magasins physiques aussi qui permettent de faire ça, d'être situé dans les lieux localement, puis de permettre l'exposition des produits, le contact, parce que ça aussi, ça va toujours rester le contact, l'expérience d'aller acheter des choses, de discuter avec un détaillant, commerçant, puis de partager une passion, bien, c'est humain, ça. Puis je pense que ça va continuer, là, on le voit moins à cause de la pandémie, mais tout ça va revenir sous une forme différente. Les magasins vont se transformer, mais moi, je pense qu'il y a de la place pour les magasins. Puis, peut-être qu'il va y avoir un peu un ajustement au niveau du nombre de magasins, mais le magasin local, puis l'achat local, puis s'inscrire dans un quartier ou dans une région physiquement avec des personnes, c'est là pour rester. Puis c'est même un avantage. C'est vraiment un axe de développement qui peut nous permettre de personnaliser notre commerce. Donc, ça, faut pas l'évacuer.
Bon, ben, souhaitons que les clients actuels ou les clients futurs apprécieront toujours d'aller à la SAQ ou acheter sur saqq.com. Donc, c'était Alain Brunet qui a occupé 10 postes pendant 37 ans à la Société des écoles. Il a été PDG de la société entre 2013 et 2018 et qui est aujourd'hui professeur associé au HEC. Donc, merci beaucoup, M. Brunet, de ce retour sur le passé et aussi un regard sur l'avenir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au revoir.
Cube Radio.